Aureliano fut le seul à pouvoir comprendre tant de détresse. Le même après-midi, tandis qu'Ursula essayait de sortir Rebecca du bourbier de son délire, il se rendit au magasin de Catarino en compagnie de Magnifico Bisbal et de Guerinaldo Marquez. On avait rajouté à l'établissement de l'extérieur une série de chambres en bois qu'habitaient des femmes seules à l'odeur de fleurs mortes. Un ensemble d'accordéons et de tambourins exécutait les chansons de Francisco Lom qui n'avait plus remis les pieds à Macondo depuis plusieurs années. Les trois amis burent du guarapo fermenté. Magnifico et Guerinaldo, qui avaient le même âge qu'Aureliano mais étaient plus au fait des choses de la vie, buvaient avec méthode, des femmes sur les genoux. L'une d'elles, particulièrement flétrie, avec une denture tout en or, fit à Aureliano une caresse dont il frémit de la tête aux pieds. Il la repoussa. Il avait découvert que plus il buvait, plus il se souvenait de Remedios, mais mieux il supportait la torture que son souvenir lui infligeait. Il n'aurait pu dire à quel moment lui vint l'impression de flotter. Il vit ses compagnons et les femmes naviguer dans une sorte de réverbération lumineuse, sans poids ni forme, proférant des mots qui ne sortaient pas de leur bouche et faisant des signes mystérieux qui ne correspondaient pas à leurs gestes. Catarino lui mit la main sur l'épaule et lui dit « Il va être 11 heures ». Aureliano tourna la tête, vit l'énorme visage déformé avec une fleur en feutre à l'oreille, perdit alors la mémoire comme au temps de la peste de l'insomnie et ne la retrouva qu'à l'aube, par une matinée qui lui parut très éloignée dans le temps, dans une chambre tout à fait inconnue, où se tenait Pilar Ternera, en combinaison, pieds nus, dépeignés, allumant une lampe et n'en croyant pas ses yeux.
« Aureliano ?»
Aureliano se mit d'aplomb sur ses jambes et redressa la tête. Il ignorait comment il était arrivé jusqu'ici, mais il en connaissait la raison qu'il tenait cachée depuis l'enfance dans un double fond inviolable de son cœur. « Je viens coucher avec vous, » lui dit-il. Ses vêtements étaient souillés de boue et de vomissures. Pilar Ternera, qui ne vivait alors qu'avec ses deux plus jeunes fils, ne lui posa aucune question. Elle le conduisit jusqu'au lit. Elle lui nettoya le visage avec un torchon mouillé, le débarrassa de ses vêtements, puis acheva elle-même de se déshabiller et abaissa la moustiquaire afin que ses fils ne la vissent pas au cas où il se réveillerait. Elle s'était fatiguée d'attendre l'homme qui voulait bien rester, les hommes qui partaient, les innombrables hommes qui prenaient le chemin de sa maison, tous plus ou moins confondus dans l'incertitude des cartes. À force d'attendre, sa peau s'était crevassée, ses seins étaient devenus flasques, les braises de son cœur s'étaient éteintes. Elle chercha Aureliano dans l'obscurité, posa sa main sur son ventre et l'embrassa dans le cou avec une tendresse toute maternelle. « Mon pauvre petit garçon, » murmura-t-elle. Aureliano tressaillit. Avec une habileté tranquille, sans le moindre faux pas, il laissa loin derrière lui les falaises escarpées de la douleur et rencontra Remedios changé en grand marécage sans horizon, sentant la chair fraîche et le linge fraîchement repassé. Quand il sortit des flots, il pleurait. Ce ne furent d'abord que des sanglots involontaires et entrecoupés, puis, sentant que quelque chose d'enflé et de douloureux venait de crever en lui, il libéra en se vidant des torrents de larmes. Elle attendit, lui grattant la tête du bout des doigts jusqu'à ce que son corps eût évacué cette sombre humeur qui l'empêchait de vivre. Alors, Pilar Ternera lui demanda « Qui est-ce ?» Et Aureliano le lui dit. Elle éclata de ce rire qui terrifiait autrefois les colombes et ne réveillait même plus les enfants à présent. « Il te faudra finir de l'allaiter !» fit-elle en se moquant. Mais derrière cette plaisanterie, Aureliano découvrit de la compréhension, comme un plan d'eau dormante en amont des rapides. Lorsqu'il quitta la chambre, débarrassé de tous les doutes qu'il avait pu avoir sur sa propre virilité, mais aussi de ce poids amer qu'il avait supporté tant de mois au fond de son cœur, Pilar Ternera lui avait fait spontanément une promesse. « Je vais parler à l'enfant, » lui dit-elle, « et tu vas voir si je ne te la sers pas sur un plateau. » Elle tint parole. Mais à un mauvais moment, car la maison avait perdu la paix des autres jours. En découvrant la passion de Rebecca, qu'il ne fut pas possible de tenir secrète à cause de ses cris, Amaranta fut prise d'un accès de fièvre. Elle aussi endurait avec souffrance les chardes d'un amour solitaire. Enfermée dans les bains, elle se soulageait des tourments d'une passion sans espoir en écrivant des lettres enfiévrées qu'elle se contentait de cacher au fond de la mallette. Ursula put à peine suffire aux soins que réclamaient les deux malades. Au terme d'interrogatoires interminables et insidieux, elle ne réussit même pas à connaître les causes de la prostration d'Amaranta. Pour finir, dans un moment d'inspiration subite, elle força la serrure de la mallette et découvrit les lettres nouées avec des faveurs couleur de rose, gonflées de fleurs de lys, qui n'avaient pas eu le temps de faner, encore mouillées de larmes, adressées et jamais envoyées à Pietro Crespi. Elle pleura de fureur, maudit l'heure où l'idée lui était venue d'acquérir un piano mécanique, interdit les cours de broderie et décréta une sorte de deuil sans mort qui devait se prolonger jusqu'à ce que les jeunes filles eussent renoncé à leurs espérances. C'est en vain que voulut intervenir José Arcadio Buendía, qui avait rectifié sa première impression sur Pietro Crespi et admirait son habileté à faire fonctionner les mécaniques musicales. Aussi, lorsque Pilar Ternera dit à Aureliano que Remedios était prête à l'épouser, celui-ci comprit que la nouvelle achèverait de plonger ses parents dans la désolation. Mais il fit face aux événements. Convoqué au salon pour une entrevue des plus sérieuses, José Arcadio Buendía et Ursula écoutèrent sans broncher la déclaration de leur fils. Mais en apprenant le nom de la fiancée, José Arcadio Buendía s'empourpra d'indignation. « L'amour est une peste !» fit-il d'une voix tonitruante. « Ce ne sont pas les jeunes filles jolies et honnêtes qui manquent, mais la seule chose qui te vient à l'esprit, c'est de te marier avec la fille de l'ennemi !» Cependant, Ursula partagea le choix d'Aureliano. Elle avoua qu'elle tenait en affection les sept sœurs moscotées, en raison de leur beauté, de leur assiduité au travail, de leur honnêteté et de leur bonne éducation, et se réjouit de la sagesse de son fils. Vaincu par l'enthousiasme de sa femme, José Arcadio Buendía posa alors une condition. Rebecca, en contrepartie, se marierait avec Pietro Crespi. Ursula emmènerait Amaranta en voyage, jusqu'à la capitale de la province, lorsqu'elle en aurait le temps afin de la mettre en contact avec des milieux étrangers et lui faire oublier ses illusions perdues. Dès qu'elle connut cet accord, Rebecca recouvra la santé et écrivit à son fiancé une lettre débordante de joie qu'elle soumit à l'approbation de ses parents et remit au courrier sans recourir à des intermédiaires. Amaranta feignit d'accepter la décision et se rétablit progressivement de ses accès de fièvre, mais en se jurant bien qu'avant de se marier, Rebecca devrait lui passer sur le corps. Le samedi suivant, José Arcadio Buendía mit son costume de drap foncé, son col de celluloïde et les bottes en peau de chamois qu'il avait étraînées le soir de la fête et partit demander la main de Remedios Moscote. Le corregidor et son épouse furent à la fois flattés et troublés de le recevoir, d'abord parce qu'ils ignoraient le propos de cette visite inattendue, puis parce qu'ils crurent qu'il y avait confusion sur le nom de la fiancée. Pour dissiper le malentendu, la mère alla réveiller Remedios et la porta dans ses bras jusqu'au salon, encore tout abruti de sommeil. Ils lui demandèrent si elle était vraiment décidée à se marier, et elle répondit en pleurnichant que son seul désir était qu'on la laissât dormir. José Arcadio Buendía, comprenant combien les moscotés pouvaient être déconcertés, s'en fut éclaircir la question auprès d'Aureliano. Quand il revint, les époux moscotés avaient revêtu des habits de cérémonie, changé la position des meubles et mis des fleurs nouvelles dans les vases, et l'attendaient en compagnie de leurs filles les plus âgées. Étouffant à cause de l'inconfort de sa situation et de son col dur qui le gênait, José Arcadio Buendía confirma qu'en effet, c'était bien Remedios l'heureux élu. « Ça n'a aucun sens !» fit Don Apollinar Moscoté consterné. « Nous avons six autres filles, toutes célibataires et en âge de prendre mari, qui seraient enchantées d'être les très dignes épouses de messieurs aussi sérieux et travailleurs que votre fils. Et voilà qu'Aureliano pose justement les yeux sur la seule qui pisse encore au lit. » Son épouse, une femme bien conservée aux paupières tristes, au maintien affligé, lui reprocha son incorrection. Lorsqu'ils en eurent fini avec la compote de fruits qu'on avait servie, tous avaient accepté avec satisfaction la décision d'Aureliano. Madame Moscoté demandait seulement la faveur d'un entretien en tête-à-tête avec Ursula. Intriguée, protestant qu'on ne la mêlât pas aux affaires des hommes, mais en réalité intimidée et tout émue, Ursula lui rendit visite le lendemain. Au bout d'une demi-heure, elle revint avec la nouvelle que Remedios était un pubère. Aureliano ne considéra pas la chose comme un obstacle majeur. Il avait tant attendu qu'il pouvait bien attendre encore, autant qu'il le faudrait que sa fiancée fût en âge de concevoir. L'harmonie retrouvée fut seulement perturbée par la mort de Melquiades. L'événement était prévisible, mais ses circonstances le furent moins. Quelques mois après son retour, il s'était mis à vieillir si vite et d'une manière si inquiétante qu'on le prit bientôt pour un de ces arrière-grands-pères inutiles qui déambulent comme des ombres d'une chambre à l'autre, traînant les pieds, se rappelant à voix haute une belle époque révolue et dont personne ne s'occupe ni ne se souvient vraiment jusqu'au jour où on les retrouve morts au petit matin dans leur lit. Au début, José Arcadio Buendía l'avait secondé dans ses travaux, enthousiasmé par la nouveauté du daguerréotype et les prédictions de Nostradamus. Mais il était devenu de plus en plus difficile de se faire comprendre de lui, et peu à peu, il l'avait abandonné à sa solitude. Melquiades perdait la vue et Louis paraissait confondre ses interlocuteurs avec des gens qu'il avait connus en des temps reculés de l'histoire de l'humanité, et répondait aux questions qu'on lui posait par un pot-pourri confus de langue et de patois. Il marchait en tâtonnant dans le vide, mais parvenait à se couler entre les objets avec une inexplicable souplesse, comme s'il avait été doué d'un sens de l'orientation reposant sur des pressentiments immédiats. Un jour, il oublia de mettre son dentier qu'il laissait la nuit dans un verre d'eau près de son lit, et jamais plus ne le remit. Lorsqu'Ursula décida d'agrandir la maison, elle lui fit aménager une chambre particulière contiguë à l'atelier d'Aureliano, loin de tout bruit et du remue-ménage domestique, avec une fenêtre par où le soleil coulait à flots, et une étagère où elle-même rangea les livres presque perdus à cause des mites et de la poussière, les papiers si fragiles entièrement recouverts de signes incompréhensibles, et le verre qui contenait le dentier où s'étaient fixées des plantes aquatiques aux minuscules fleurs jaunes. Le nouvel endroit parut convenir à Melquiades, car on ne le revit plus, même à la salle à manger. Il ne se rendait qu'à l'atelier d'Aureliano, où il passait des heures et des heures à gribouiller sa littérature énigmatique sur les parchemins qu'il avait apportés et qui paraissaient fabriqués en une matière très sèche qui se fondillait comme une pâte feuilletée. Il prenait là les repas que Visitación lui apportait deux fois par jour, bien que les derniers temps, il perdit l'appétit et ne s'alimenta que de légumes. Bientôt, il prit cet aspect de chose à l'abandon bien propre aux végétariens. Sa peau se couvrit d'une mousse tendre, pareille à celle qui croissait sur le gilet anachronique dont il ne se sépara jamais, et quand il respirait, son haleine dégageait une odeur d'animal endormi. Aureliano finit par l'oublier, trop absorbé par la composition de ses poèmes, mais il eut une fois l'impression de comprendre quelque chose à ce qu'il racontait dans ses monologues bourdonnants, et il se fit plus attentif. En fait, la seule chose qu'il put détacher de ces longues avalanches de conciliabules, ce fut l'insistante répétition du même mot « équinoxe, équinoxe, équinoxe », ainsi que le nom d'Alexander von Humboldt. Arcadio se rapprocha un peu de lui lorsqu'il commença d'aider Aureliano dans ses travaux d'orfèvrerie. Melquiades répondit à ses efforts de communication en lâchant quelquefois des phrases en castillan qui n'avaient que peu de rapport avec la réalité. Un après-midi pourtant, il parut illuminé par une émotion soudaine. Bien des années plus tard, devant le peloton d'exécution, Arcadio devait se rappeler de quelle voix chevrotante Melquiades lui lut plusieurs pages de son indéchiffrable écriture, auquel il ne comprit naturellement rien, mais qui, récité ainsi à haute voix, ressemblait à des encycliques psalmodiées. Puis, il sourit pour la première fois depuis longtemps et dit en espagnol « Quand je serai mort, brûlé du mercure pendant 3 jours dans ma chambre. » Arcadio en parla à José Arcadio Buendía et celui-ci tenta d'obtenir de plus amples renseignements, mais ne s'attira pour toute réponse que cette phrase « J'ai atteint l'immortalité. » Lorsque l'haleine de Melquiades commença à empester, Arcadio l'emmena se baigner à la rivière tous les jeudis matins. Il parut aller mieux. Il se déshabillait et se jetait à l'eau avec les jeunes gens, et son mystérieux sens de l'orientation lui permettait d'éviter les endroits profonds et dangereux. « L'eau est notre élément !» dit-il une fois. Ainsi s'écoula-t-il une longue période sans qu'on le vît à la maison, excepté la nuit où il déploya de touchants efforts pour réparer le piano mécanique, et les jours où il allait à la rivière avec Arcadio, portant sous le bras le récipient en fruits de totumo et la boule de savon ordinaire enveloppée dans une serviette. Un jeudi, avant qu'on ne fût venu l'appeler pour se rendre à la rivière, Aureliano l'entendit dire « Je suis mort de fièvre dans les laisses de Singapour. »